Radio Fribourg,
Coin de ciel avec Sœur Marie-Pierre.
Soyez les bienvenus, bonjour à toutes et tous. Dans les premiers siècles du christianisme, prêchait la liberté qu'apporte le Christ dans une société où l'esclavage est omniprésent, est plutôt un non-sens. L'apôtre Paul en connaissait les pratiques et les lois, lui qui était un citoyen romain. Alors, comment s'est-il positionné quand les jeunes communautés de disciples refusaient de se séparer de leurs esclaves? Le père Ludovic Nobel est l'invité de ce matin. Il a récemment écrit un petit livre intitulé « Paul et l'esclavage aux éditions du Cerf ». Grâce à ses réponses, nous en saurons peut-être un peu plus à la fin de notre émission sur cette pratique vieille de plusieurs siècles. Père Ludovic, bonjour.
Bonjour, Sœur Marie-Pierre.
Avec vous, nos auditeurs vont faire un réel bond en arrière. Et ma toute première question sera, les uns dominent, les autres sont soumis. Cette pratique existe depuis quand?
L'esclavage, cette pratique, disons, existe dans le fond depuis la nuit des temps. Elle existe, bien sûr, dans le monde romain, dans lequel le Nouveau Testament est né, mais on remarque, par exemple, cette pratique de l'esclavage existe également dans l'Ancien Testament. Ainsi, par exemple, Abraham achète des esclaves en même temps qu'il achète du bétail dans les cultures de la Mésopotamie. Cette pratique de l'esclavage était bien connue. Donc, on peut dire vraiment que cette pratique de l'esclavage remonte à la nuit des temps et n'était pas quelque chose de nouveau à l'époque de Paul.
Y a-t-il une différence de régime où chacun appliquait sa manière de traiter ses esclaves? Parce qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient quand même très corrects et d'autres qui l'étaient nettement moins.
Alors, il y avait bien sûr beaucoup de différences. Une première chose à relever, c'est que quand on parle de l'esclavage dans l'Antiquité, eh bien, il ne faut pas le confondre avec l'esclavage tel que, eh bien, nous le connaîtrons suite à la colonisation et, par exemple, l'importation d'esclaves venus d'Afrique, qui sera vraiment une réalité encore plus cruelle et encore plus difficile. Et ça, c'est l'idée que nous, on a de l'esclavage, qui nous reste ces peuples entiers qui, en Amérique, étaient réduits en esclavage dans les champs de coton ou en Afrique et qui étaient vraiment très, très maltraité. La réalité de l'esclavage à l'époque biblique, eh bien, variait premièrement d'une région à une autre, d'une personne à une autre et aussi d'une époque à l'autre. Si on parle par exemple du judaïsme, le judaïsme, on a dit, il connaissait l'esclavage, mais cet esclavage était quand même fortement limité. Admettons qu'un juif avait une dette qu'il avait contractée et qu'il ne pouvait payer, alors il allait être réduit en esclavage le temps du remboursement de sa dette. Et il y avait la pratique des jubilés qu'on va reprendre dans le christianisme, les jubilés de l'an 2000, dans 2025. Et dans le fond, dans le judaïsme, tous les 7 ans, il y avait une année dite jubilaire. Et à ce moment-là, ceux qui étaient réduits en esclavage, pour une dette par exemple, eh bien, devaient être libérés. Et donc, l'esclavage dans le judaïsme n'était que partiel ou momentané. Par contre, si on prend dans l'Empire romain, qui était vraiment à proprement parler, à l'époque de Paul, une société esclavagiste, c'est-à-dire que non seulement elle pratiquait l'esclavage, mais elle dépendait de l'esclavage. Sans l'esclavage, l'Empire romain n'aurait pas pu subsister, n'aurait pas pu exister encore. Il se serait probablement effondré parce que, dans le fond, si on veut dire, une grande partie de la population vivait cette réalité de l'esclavage. Mais là, il y a aussi de nombreuses nuances. Par exemple, on pouvait être esclave dans une maison d'un riche romain et mener une vie, somme toute, assez agréable. privation de sa liberté. Si on était par exemple précepteur, chargé de l'éducation, ou si on était au service des affaires du patron, de l'éducation, du commerce, ainsi de suite, la vie pouvait être même assez agréable, simplement que on pouvait être médecin par exemple et être esclave, hein, parce que à cette époque il y avait des guerres, hein, Rome gagnait une guerre, des populations entières étaient réduites en esclavage. Et ça ne veut pas dire que toutes ces personnes allaient avoir une vie de misère, mais ça veut dire qu'ils allaient être privés de leur liberté, appartenir à un maître, et donc, bien sûr, avoir une vie qui changeait, mais qui, somme toute, à la fin, n'était pas si dramatique. Par contre, il y avait d'autres esclaves qui allaient travailler dans les mines, par exemple, hein, et ça, c'était la condition la plus difficile. Et la vie dans les mines, dans les champs, dans les grands domaines paysans, pouvait parfois être très dure. Et bien sûr, si le maître était plus conciliant, les choses allaient mieux, mais si le maître était assez difficile et cruel, eh bien la vie pouvait être quand même relativement dure. Puis on va encore remarquer également qu'à l'époque de Paul, hein, on est toujours dans une société esclavagiste, mais il y a un courant dit humaniste qui s'installe petit à petit. C'est-à-dire que si dans les temps de la République, on considérait les esclaves comme des choses, hein, selon le droit romain, ils sont une chose et donc ne disposent pas d'une personnalité légale. Un esclave, selon le droit, ne peut rien posséder, n'a pas le droit à une vie de famille. Alors, si le maître le permettait, il pouvait vivre en concubinage et avoir des enfants. Mais dans le fond, pas de mariage. Le maître était toujours libre de vendre les enfants qui était né de cette union, de séparer un couple, parce qu'il dépendait de lui et il avait droit de vie et de mort sur ses esclaves. Donc le droit n'était pas tellement en faveur des esclaves, hein, mais petit à petit, on va remarquer que, comme souvent, eh bien, il y a une loi, mais que dans les contacts, eh bien, il y aura une certaine humanité qui va se développer. Des philosophes comme Sénèque, Suétone ou Pline vont inviter à traiter leurs esclaves avec humanité, à les considérer comme des amis, comme des frères. Et c'est dans ce climat d'humanisation d'esclavage, eh bien, que Paul va lui s'inscrire et arriver.
Père Ludovic, dans ces conditions, est-ce qu'il était facile aux esclaves de se sauver et puis si on les rattrapait, qu'est-ce que ça donnait?
Alors, les esclaves avaient la possibilité de s'affranchir, hein, de devenir un affranchi.
Oui, mais un affranchi par son maître, mais il ne pouvait pas s'affranchir lui-même.
Le maître pouvait décider d'affranchir son esclave, c'est-à-dire d'accorder la liberté à un esclave s'il estimait qu'il l'avait servi suffisamment longtemps et suffisamment bien, pour une raison ou pour une autre, il pouvait décider de l'affranchir, de lui rendre sa liberté. Parfois, l'esclave achetait lui-même cette liberté. Hein. Il allait donc mettre de l'argent de côté et récolter de l'argent pour racheter cette liberté. Puis, il y avait bien sûr également le cas des esclaves qu'on appelait les fugitifs. Donc, c'est-à-dire un esclave qui allait fuir la maison de son maître. Il le faisait très souvent parce qu'il était maltraité dans la maison de ce maître et qu'il aspirait à une nouvelle vie. La situation des fugitifs était particulièrement précaire parce que dans le fond, le droit était contre eux et héberger un fugitif, si un autre romain, un autre maître, une personne allait héberger chez lui un fugitif, eh bien, il se mettait lui-même dans une situation d'irrégularité. Donc le fugitif était souvent livré à lui-même et souvent, peu de temps après, il préférait encore rentrer dans la maison de son maître ou même si la vie n'était pas forcément drôle, il allait avoir un toit et de quoi manger. Mais le maître pouvait également leur punir très sévèrement un fugitif et le marquer au fer pour bien rappeler qu'il avait été un fugitif, qui était un statut vraiment très négatif.
Père Ludovic, à la page 33 de votre livre, il est question d'une épître à Philémon, où Paul, citoyen romain, comme on l'a déjà dit, est disciple de Jésus-Christ. Il est confronté à l'esclavage, mais d'abord, qu'est-ce que c'est cette épître très très courte et qu'on ne lit que très rarement? Elle dit quoi, cette épître?
Alors, l'épître à Philémon, ou le billet à Philémon, effectivement, c'est la plus courte des épîtres de Paul. Ça se lit en une dizaine de minutes. C'est vraiment très bref, hein. Et c'est un écrit de circonstance, hein. Nous avons essentiellement Philémon, qui est un maître, qui a un esclave qui s'appelle Onésime. Et cet Onésime, dont le nom signifie, traduit en français, celui qui est utile, Onésimos en grec, celui qui est utile, c'était un nom réservé aux esclaves, a, pour une raison qu'on ne connaît pas précisément, fui la maison de son maître. Lui-même n'était pas chrétien au moment de sa fuite, Onésime. Philémon était un collaborateur de Paul, donc était un chrétien qui possédait des esclaves, comme il y en avait de nombreux autres. Et Onésime, quand il a fui la maison de son maître, pour une raison que l'on ne connaît pas non plus précisément, mais sans doute, après un certain temps, comme je le disais, la situation des fugitifs étant très difficile, a souhaité rentrer dans la maison de son maître, retourner. Mais il craignait de le faire directement par lui-même. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Se rappelant de ce Paul qui avait dû passer chez Philémon, qui était en bon contact, il va aller trouver Paul et lui demander d'intercéder en sa faveur. Ce que va faire Paul en écrivant cette petite épître qui demande à Philémon d'accueillir dans sa maison son esclave Onésime et de l'accueillir non plus comme un esclave, mais comme un frère. Et donc de le reprendre, mais de le reprendre comme un frère, donc de lui faire un très bon accueil. Et cette pratique, hein, de la lettre d'un ami dans le cas d'un fugitif était courante. Paul n'innove pas non plus sur ce point, puisque par exemple on a retrouvé des lettres de Pline le Jeune qui vont dans le même sens, où Pline intercède auprès de l'un de ses amis en faveur d'un esclave. C'est une pratique courante, et Onésime, eh bien, a fait appel à Paul afin, eh bien, de, si on veut, d'apaiser un peu le courroux de son maître.
À cette époque, Paul n'était pas en prison?
Alors, l'épître à Philémon fait effectivement partie de ce qu'on appelle les épîtres dites de la captivité, hein. Et donc, ça veut dire que c'est une épître où Paul est prisonnier, il est dans les chaînes au moment où il écrit cette épître. Et donc, Onésime va venir le trouver alors qu'il est en captivité.
Oui, parce que Paul étant en captivité, il ne pouvait pas l'accueillir lui-même, donc il a fait les tractations par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre pour l'accueillir, ce Philémon.
Donc, Onésime.
Non,
Onésime est venu visiter Paul dans sa prison. Les prisons à l'époque, eh bien, le contact avec l'extérieur était nécessaire, hein, de façon, parce que la prison était toujours en l'attente d'un procès, non pas une peine comme on la connaît maintenant, mais c'était un temps où on attendait son procès, donc il fallait des contacts avec l'extérieur pour se nourrir, donc c'était possible. Et donc Onésime est venu chez Paul et lui a demandé d'intercéder en sa faveur auprès de son maître. Et Paul va écrire cette petite lettre, ce billet à Philémon. D'ailleurs, c'est la seule épître que Paul a écrite de sa main. Parce que les autres épîtres de Paul, hein, ces 13 épîtres qu'on lui attribue, elles sont plus longues et Paul les dictait. Mais celle-ci était tellement courte qu'il a écrit de sa main. Et d'ailleurs, il le dit lui-même, il le dit, voilà, c'est de ma main même que je t'écris. Pour encore donner un peu plus de poids à son argumentation.
Paul, quand on lit ses épîtres, j'ai, pour dire jamais, trouvé qu'il parlait de l'esclavage. Alors, est-ce que c'est cette seule épître-là?
Paul n'a pas pris position explicitement sur la réalité de l'esclavage. Dans le cas de l'épître à Philémon, il demande, il ne condamne pas la pratique de l'esclavage. Hein. Mmh. Il ne dit pas à Philémon, Philémon qui est un chrétien, le responsable de la communauté de Colosse où il vit, eh bien, Paul ne lui dit pas « tu es dans tes torts dans les esclaves ». Hein. Et justement, il lui renvoie son esclave Onésime. Il renvoie l'esclave avec la lettre et il montre bien par là qu'il reste le maître d'Onésime, mais Paul lui demande une faveur, c'est-à-dire de l'accueillir non plus comme un esclave, mais comme un frère, parce que entre-temps, Onésime est devenu chrétien. Au contact de Paul, Onésime va se convertir. Et lui-même, alors qu'il ne s'était pas converti quand Paul était venu chez Philémon, Philémon était responsable de la communauté, il s'était converti avec sa famille, sans doute, et d'autres, mais Onésime, l'esclave, n'était pas devenu chrétien à ce moment-là. Et c'est au contact de Paul, quand il le fréquentera dans sa prison, alors que Paul est à Éphèse, qu'Onésime va finalement se convertir. Et Paul va finalement dire, accueille-le comme un frère, parce que maintenant il est membre de la communauté chrétienne. Et il lui dit, Onésime, il joue sur les mots, hein, parce qu'Onésime, vous l'avez dit, ça veut dire celui qui est utile, et il dit, il me sera utile encore bien plus qu'il ne pourrait te l'être, parce que Paul veut en faire son collaborateur dans la proclamation de l'Évangile. Donc Onésime est appelé à devenir un collaborateur de Paul. D'ailleurs, on retrouvera, on ne sait pas si c'est le même, mais au IIe siècle, on retrouve un Onésime qui est évêque de la communauté d'Éphèse. Onésime, c'est de façon le nom d'un esclave. Donc, de quoi qu'il en soit, ça devait être un autre esclave. Donc, ça, on voit bien que cet esclave, eh bien, Paul dit, il pourrait participer à ma mission d'évangélisation. Et donc, je te le demande de l'accueillir comme un frère et de le mettre à mon service. Alors, en même temps, il reconnaît les liens qui lient le maître à son esclave, mais en même temps, il fait une pression très indirecte sur Philémon. Il dit, si tu me considères comme ton frère, tu dois l'accueillir lui aussi comme mon frère. Hein? Et tu me rendras bien ce service, moi qui t'en ai rendu de plus grand, parce qu'il dit, moi je t'ai donné beaucoup plus, tu es devenu chrétien grâce à moi, tu as accédé à la vie. Hein? Donc tu peux me parfaiter ce service-là. Dans cet épître-là, Paul aborde la question d'esclavage dans un cas concret. Il ne le condamne pas et il appelle à une fraternité entre tous.
Paul a bien parlé de l'esclavage dans d'autres épîtres.
Nous avons quelques autres passages où la question d'esclavage est abordée. Parce qu'il faut bien comprendre que, comme on vit dans une réalité omniprésente, eh bien la langue de Paul ou les questions qui venaient, immanquablement, il doit traiter ce sujet-là en passant. Mais il ne fait pas vraiment de grands traités. Alors nous avons essentiellement, si on veut, deux passages, deux épîtres où cette question est abordée, dans l'épître aux Galates. Dans l'épître aux Galates, et là il y a un passage issu de la liturgie baptismale, hein, Galates 3, chapitre 3, les versets 26 à 28, où Paul dit, en Christ, en Jésus-Christ, il n'y a plus l'homme et la femme, il n'y a plus le juif et le païen, il n'y a plus l'homme libre et l'esclave. C'est-à-dire que Paul dit, il y a une, en Jésus-Christ, dans la communauté chrétienne, les distinctions qui existaient dans la société d'alors. Parce qu'à l'époque, nous avions une des grandes distinctions entre, bien sûr, l'homme et la femme, hein, où le salut de la femme n'était pas enviable, ou qui était vraiment quand même plus difficile. Hein. Et puis, il y avait des différences entre être juif ou être romain, être citoyen ou ne pas l'être, ça faisait une grosse différence, hein. On nous est très séparés, et finalement, entre les esclaves. Il dit, toutes ces distinctions sociales qui pouvaient exister dans la société d'ailleurs, en Jésus-Christ, elles sont abolies. Elles n'ont plus raison d'être parce que, en Jésus-Christ, parce que par le baptême, hein, parce qu'on a revêtu le Christ, et par le baptême, on est tous on devient frères et sœurs de Jésus-Christ, donc frères et sœurs entre nous. Mmh. Ces distinctions n'ont plus raison d'être. Ça, c'est un passage où on peut dire, dans le fond, où ici Paul, il prêche pour une abolition de l'esclavage. Ça, c'est vraiment un principe général. En même temps, Paul est conscient que dans l'Empire romain, où l'esclavage est omniprésent, il ne peut pas dire maintenant ouvertement il faut que les esclaves soient tous libérés ou autrement, il va s'attirer les foudres de l'Empire romain et la persécution va déferler sur la communauté chrétienne. Dans l'Épître aux Corinthiens, nous avons un passage qui est pratiquement identique à celui-ci, hein, où Paul reprend ses distinctions et dit qu'elles sont abolies. Il omet de parler de la distinction entre homme et femme. Il dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus l'homme libre et l'esclave, le juif ou le païen. Il fait à peu près le même passage. Hein. Mais il y a un autre passage au chapitre 7 qui est aussi intéressant, où Paul dit que, eh bien, quand on devient chrétien, parce qu'on est devenu chrétien, il dit, ne cherchez pas à changer de condition. Il dit, si tu étais marié et que tu deviens chrétien, reste marié. Si tu étais célibataire, reste célibataire. Si tu étais esclave, ne cherche pas à gagner ta liberté. Voilà ce qu'il dit dans ce passage-là. Si tu es esclave, ne cherche pas ta liberté, mais il y a une petite concession, dit, mais Mais si l'occasion se porte à toi, alors profites-en. Certaines traductions vont plus dans le sens de dire « même si l'occasion n'en profite pas ». Mais il faut plutôt penser que Paul dit « si tu es esclave, ne cherche pas à changer de condition, mais si vraiment ça se porte à toi, alors profites-en ». Ça me semble la plus logique. Pourquoi est-ce que Paul dit qu'il ne faut pas changer de condition ? Eh bien, il le dit tout simplement, dit la pensée de Paul, le retour du Christ, l'eschatologie était imminente. Et Paul dit, tout ce qui fait notre vie d'aujourd'hui, le mariage ou pas, le fait d'être célibataire, le fait d'être esclave ou homme libre, n'ont plus d'importance parce que ce qui compte, ce n'est pas cette vie présente, c'est la vie en Dieu. Et ce retour est imminent. Et Paul veut leur dire, ne gaspillez pas votre énergie à essayer d'améliorer votre condition ici sur cette terre présente, mais travaillez pour la vie éternelle, une vie qui ne s'arrêtera pas. Et c'est là-dessus que vous mettez tous vos efforts. C'est dans ce sens eschatologique eh bien, que Paul, dans le fond, on pourrait dire, encourage au statu quo, à ne pas changer de condition dans ce cas concret des chrétiens de Corinthe qui devaient être préoccupés par ces questions-là. Et Paul leur dit, ces questions sont importantes, c'est vrai, mais il y a plus important, concentrez-vous sur ce plus important.
Père Ludovic, Paul était citoyen romain. Est-ce que dans sa famille, il y avait des esclaves ? Alors peut-être qu'à cause de ça, il ne voulait pas trop se mouiller, comme on dirait aujourd'hui ?
Nous n'avons pas d'informations du tout à ce sujet, hein, mais ce n'est pas du tout impossible parce que la réalité d'esclavage était, comme je vous disais, omniprésente. Et on a vu que Philémon possédait des esclaves. Les Juifs aussi, le judaïsme connaissait la réalité de l'esclavage, donc elle n'était pas scandaleuse ou condamnée comme telle. On aurait pu penser que dans le judaïsme, il n'y avait pas du tout d'esclaves, ce qui n'était pas le cas. Et dans les premières communautés chrétiennes, l'esclavage a été une pratique courante, ou pratiquée, ou qui existait. Mais je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle Paul n'en parle pas. S'il n'en parle pas, ou s'il en parle, mais s'il ne condamne pas explicitement, c'est vraiment très probablement parce que, d'une part, pour Paul, ce qui compte, ce n'est pas cette vie présente, mais la vie à venir, et pour Paul, le retour du Christ est timide. Il l'attendait de son vivant à lui. Donc, ça, c'est un deuxième point. Et deuxième point, c'est que Paul était conscient, la communauté chrétienne qui n'était pas une communauté mondiale comme elle est maintenant, et plus d'un milliard de personnes, hein, mais qui était vraiment une petite communauté dans un immense empire romain, Paul savait très bien, le risque était beaucoup trop grand d'affronter de manière frontale l'empire romain sur une réalité qui était si importante. Comme je vous l'ai dit, c'était une société esclavagiste qui vivait de l'esclavage. Et donc, Paul savait que s'il disait maintenant « les esclaves, il faut tous les libérer », eh bien, il allait avoir lui-même des problèmes, et les chrétiens aussi.
On parle de l'esclavage, Père Ludovic, malheureusement. Aujourd'hui encore, ça existe en chaque être humain. On est esclave de la cigarette, on est esclave de son portable, enfin, d'une multitude de choses. Ce genre de dépendance n'est-elle pas une nouvelle forme encore plus dangereuse que l'esclavage tel qu'il était avant et dont nous venons de parler ?
L'esclavage tel que connu par Paul, hein, il faut bien dire aussi, si Paul n'a pas forcément condamné de manière directe l'esclavage, il a tout de même contribué à une prise de conscience, eh bien, que cette réalité de l'esclavage, eh bien, n'était pas une réalité qui correspondait à la dignité humaine. Hein. Les philosophes de l'époque, hein, si on parle par exemple d'Aristote, Aristote pensait qu'il y avait des gens qui étaient nés pour être esclaves, ce qu'on appelait l'esclavage par nature. Et Aristote dira, pour ces personnes, il est mieux d'être esclave parce qu'ils sont nés pour être esclaves. Et donc, c'est pour leur bien. S'ils n'étaient pas esclaves, ils seraient malheureux, ils seraient mal. Paul, lui, il va, par son appel à la fraternité en Jésus-Christ, eh bien, il va lancer une réforme des cœurs et des mentalités. Se dire, eh bien, il faut que... On ne peut pas changer la société, mais on peut changer les cœurs. On peut changer les mentalités petit à petit. Il va ainsi jeter les bases d'une fraternité universelle. Et donc, cet esclavage tel que connu à l'époque de Paul va finalement s'éteindre autour de l'an 1000 dans l'actuelle Europe. Hein. Puis il va renaître 5 siècles plus tard dans d'autres contextes. Et finalement, il va subsister jusqu'au 20e siècle. Hein. Les derniers pays, quelques pays de l'Afrique, eh bien, vont l'abolir au début des années 80. Donc c'est une réalité qui a été très longtemps présent dans notre monde et qui a cohabité avec le christianisme, si on veut, durant des siècles et des décennies. L'esclavage a disparu, oui, mais dans le fond, l'esclavage est toujours présent ou il a été remplacé par d'autres réalités. Il y a d'autres manières de tenir des personnes en esclavage ou en dépendance. Hein. On sait que dans certains pays d'Amérique latine, les conditions de certaines personnes qui travaillent dans les champs sont assez proches de celles d'esclaves. Dans nos pays cultivés et modernes, eh bien, quand on importe du personnel de maison et qu'on les prive de leur passeport, ce sont des réalités qui sont quand même aussi assez proches de l'esclavage, où finalement les personnes sont dépendantes de ceux qui les engagent et où finalement les droits sont très limités.
On pourrait dire qu'il y a des cousins germains à l'esclavage, parce qu'ils pourraient s'appeler les abus de pouvoir. Et on en sait quelque chose, l'Église fait un petit peu la chasse à tout ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment dominer des subordonnés, mais ces subordonnés, ils sont comme les autres, des héritiers de la liberté apportée par Dieu sur cette terre.
Paul a relativement peu parlé de l'esclavage, comme je vous le disais, c'est quelques passages, mais là, par contre, il a beaucoup parlé de la liberté. Et il a dit, nous sommes appelés à la liberté. Nous avons été libérés, c'est le grand argument aussi de l'Épître aux Galates, nous avons été appelés à la liberté, libérés par Jésus-Christ. Il dira, nous sommes tous des affranchis du Seigneur. Hein. Dans ce sens-là, pour Paul, il est évident que la liberté est une réalité très importante. Et finalement, voyez, la liberté, elle peut se vivre dans toutes conditions. Je peux être esclave d'un maître parce que la condition économique m'y a forcé, mais je peux avoir une grande liberté intérieure. Je peux être libre, et savoir que cette liberté-là, nul ne peut me la prendre. Par contre, je peux être plus ou moins, ou avoir le sentiment d'être maître de ma vie ou maître des autres, mais en même temps avoir très peu de liberté intérieure. Et là, alors on revient par exemple à ces dépendances. Hein. On peut finalement vivre dans la dépendance d'une autre personne. Si cette personne n'est pas là, eh bien, on en souffre. Ou certaines personnes peuvent avoir une certaine emprise sur d'autres personnes, privent de la liberté. Hein. Et ça, ça peut arriver aux abus de pouvoir. On le voit sur le lieu du travail, on le voit également dans le cadre d'organisations, de communautés religieuses, où des fondateurs ou des supérieurs ont eu un rôle des fois presque de gourou, hein, ou dans des sectes aussi, dans beaucoup d'endroits, où on est privé de sa liberté. Et ça, eh bien sûr, ce sont toutes des formes d'esclavage moderne qui existent encore aujourd'hui. Donc le plus important, eh bien, c'est ce message de Paul qui nous appelle toutes et tous à la liberté intérieure. Parce qu'il dit, hein, en Jésus-Christ, nous avons été libérés. Alors, il n'y a plus de différence sociale, hein, les différences sociales sont abolies, il n'y a plus d'hommes supérieurs et d'hommes inférieurs, il n'y a plus de privilèges pour un peuple, le peuple juif par rapport à un autre, il n'y a plus d'hommes et de femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus quelqu'un qui commande et l'autre qui est soumis, il y a une égalité réelle en Jésus-Christ, et ça c'est bon de se le rappeler aussi pour nous aujourd'hui. Maintenant, bien sûr, dans nos sociétés, l'égalité est importante, mais aussi, on voit bien qu'entre les peuples, on a toujours un peu tendance à considérer que certains peuples et que certaines populations ont plus à dire que d'autres, ou que leur parole est plus importante que d'autres. Cela est aboli, mais il y a surtout, Jésus-Christ vous a libéré, il nous a libéré du péché, il nous a libéré de la mort, de la peur de la mort, parce qu'il nous a offert la vie. Et donc, toutes ces chaînes qui rendaient l'homme esclave ou qui le rendent dépendant, eh bien, elles ont été brisées par la mort et la résurrection du Christ. Et donc, le chrétien, eh bien, est celui qui doit vivre libre. Libre devant Dieu, libre par rapport aux hommes, cette liberté, parce qu'elle nous a été offerte par Jésus-Christ dans le baptême. Hein. Nous sommes devenus des hommes et des femmes nouveaux, libérés en Jésus. Et donc finalement, spirituellement, cette liberté reçue, eh bien, c'est la tâche à chacun de la garder, de la préserver et de faire attention, parce qu'effectivement, nous pouvons Paul parle du péché, hein, le péché c'est assez large, hein, c'est tout ce qui dans notre vie, ces zones d'ombre, ce qui est négatif, alors toutes ces dépendances, tout ce qui nous en renferme sur nous-mêmes, tout ce qui nous éloigne de Dieu, tout ce qui nous éloigne des autres, finalement, à nous emprisonner, à nous rendre dépendants, esclaves. Il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a bien sûr les toxicodépendances, il y a le travail, il y a tellement de choses, hein, qui peuvent prendre trop d'importance. Retrouver cette liberté qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Cela serait très d'actualité, hein, et ce message de Paul, eh bien, nous concerne finalement chacune et chacun.
Merci, Père Ludovic. Notre émission se termine. Merci de votre fidélité. Bon dimanche, excellente semaine. Au revoir, à bientôt.
Radio Fribourg, Coin de ciel.